Veille économique ou marketing, concurrentiel ou informationnel, intelligence, entre guillemets, au sens anglais du terme, comme dans Market Intelligence, intelligence qui d'ailleurs peut être économique ou marketing, ou simple surveillance, monitoring en franglais, du marché ou de la concurrence, etc., etc. Je dois avouer qu'entre le charabia anglais et ses traductions approximatives, je ne savais plus très bien quoi penser. Et pourtant, j'ai été client de certaines de ces solutions. Alors je me demande ce que la femme et l'homme de la rue doivent comprendre quand ils les entendent. J'ai donc demandé à Alain Beauvieux de nous expliquer ce concept de market intelligence dont on verra qu'il s'agit d'une réinvention complète de la veille telle qu'on l'entendait traditionnellement. Au passage, pour ce qui est de la traduction de market intelligence, nos amis de la belle province pencheraient pour renseignement au pluriel sur le marché, encore que l'on devrait plutôt écrire ce mot au singulier pour mieux coller au sens anglais du mot espionnage, renseignement. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec. Vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing et le sujet du jour, Market Intelligence, qui vaut bien plus que la veille, une nouvelle approche. Avec Alain Beauvieux, fondateur de Ami Software et conseiller de la société suédoise Intelligence Today, qui est un des acteurs de la Market Intelligence.
Alors je suis avec Alain Beauvieux. Bonjour Alain, tu es le fondateur d'Ami Software. Et aussi aujourd'hui, tu es senior advisor sur ce marché de la market intelligence. Et justement, je voudrais voir avec toi comment ce marché a évolué au fil du temps et comment on peut le classifier, parce que j'ai l'impression qu'on mélange un peu tous les concepts.
Ben, effectivement, c'est bien de rappeler que cette aventure a commencé entre autres avec, pour ce qui m'intéresse, avec Ami Software que j'avais cofondé. En rachetant des actifs à des industriels suisses qui s'est très vite orienté vers ce qu'on appelle de la veille. On a aussi parlé d'intelligence économique avec d'ailleurs un certain flou sur ce qu'il y avait derrière ces concepts qui recoupaient plusieurs réalités. Mais si on fait abstraction du vocabulaire et qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a comme pratique, la promesse de ces outils, de ces plateformes, était d'être capable de suivre des sujets, des centres d'intérêt sur des sources d'informations données, des sites, ce qu'on appelle le sourcing dans notre jargon. Bon. Mm-hmm. Et donc, savoir qu'à l'école, ce que fait tel concurrent, ce qu'il raconte là et là. Bon. Donc, on est dans une approche de veille, hein, au sens traditionnel, alors qu'il y a un mot qui se traduit mal en anglais, parce que watchman, c'est vraiment l'homme du guet, quoi. Mmh. On est retourné au Moyen-Âge. Donc, mais les Américains parlent plus volontiers de monitoring, puisque c'est bien ça, on fait du monitoring. Et comme souvent les données viennent du web, on parle de web monitoring. Bon. Mmh. Ça a été un peu la première étape.
Bon. Une dimension un peu passive aussi, parce qu'en fait, on s'intéresse à des éléments finis, quoi. Il y a un nombre de concurrents, il y a un nombre de sujets, et on ne va pas au-delà.
Oui, tout à fait. Alors, qui a déjà un énorme mérite, hein, c'est qu'on n'apprend pas par ses clients ce qu'ont fait ses concurrents, ça peut toujours être utile. Mm-hmm. Mais je suis entièrement d'accord avec ta remarque. C'est une démarche passive, voire du passé, dans le sens où c'est un peu comme la comptabilité, quoi. On regarde ce qu'on a fait avant. Bon. Mais là, on regarde ce qui s'est passé, bon, ce qu'ont fait les autres. Bon, encore une fois, je ne dénigre pas parce que je pense que c'est la première étape indispensable, savoir ce que font ses concurrents, ses partenaires, être informé. Mais dans un monde où les choses bougent très très vite, effectivement, on peut s'interroger sur le fait d'être passif par rapport, d'être guetteur par rapport à ces informations, hein, parce que c'est ça en fait. On est dans une approche de guet. Alors, il y a eu plusieurs évolutions qui ont été faites. La première d'entre elles, ça a été d'introduire la variable temps. C'est-à-dire, quand je fais de la veille aujourd'hui, je vais être capable de dire à mes collègues, collaborateurs, confrères, voilà ce qui s'est passé dans notre domaine. Mais je peux aussi décider de stocker, d'enregistrer, on dit capitaliser, les informations jour après jour. Et donc, c'est là que je vais avoir à introduire la dimension du temps, parce que je vais pouvoir qu'à dire, ah ben tiens, par exemple, ce concurrent, il devient de plus en plus actif. Prenons un exemple tout basique. Je m'amuse à compter le nombre de publications d'articles qui parlent de mon concurrent sur un sourcing donné, sur un panel de sources données. Bon, ben, si la première semaine de juillet, il a 2 articles, la deuxième, 3, la troisième, 2, enfin, vous voyez, on est autour de 2, 3, et puis tout à coup, ça se met à monter à 4, 5, 6, voire beaucoup plus, ben, on peut se poser des questions. Bon, les réponses sont multiples, hein, il a peut-être embauché un super responsable de communication. Il est peut-être aussi en train de faire de la com parce que il veut faire une opération de type fusion acquisition. Il cherche à se revendre, donc il se donne de la visibilité à son affaire. Bon, mais la tendance est intéressante. On en demeure toujours quand même sur un périmètre de type veille. On a simplement introduit la variable temps. Bon.
Et puis, on peut attendre très longtemps avant qu'il se passe quelque chose, en plus.
Exactement. Bon, on prend juste un petit peu de recul sur ce qui s'est passé quotidiennement. Bon. Mais c'est une analyse de tendance qui n'est pas inintéressante du tout. Bon. Puis après, il y a une autre dimension qui, elle, est complètement différente, c'est de se dire, bon, très bien, mais sur mon marché, il y a plein d'informations qui circulent sur le net. Il y a énormément d'informations. Le débat n'est plus celui-là, enfin, je dirais depuis 5-10 ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à calculer la taille du net. Moi, je crois que ça, c'est à peu près comme le nombre d'atomes dans l'univers. On perd un peu son temps, donc c'est plus le problème. Mais c'est une nouvelle façon aussi de penser. C'est de se dire, en cherchant bien, je vais probablement trouver des choses intéressantes.
Il y a une chose qui est importante sur la taille du net, c'est qu'on regarde toujours sa taille croissante, mais par contre, on oublie de regarder l'immense masse de données et d'informations qui disparaissent du net. Moi qui ai un site web qui a 26 ans cette année, je veux dire, je passe des journées entières à enlever des liens qui ont disparu.
Oui, bien sûr. Il y a un côté effectivement éphémère, et plus la volumétrie augmente, ne serait-ce que pour des considérations d'ordre technique, plus cette durée de vie est limitée. Bon. Ce qui renforce ce que je disais tout à l'heure au niveau de la capitalisation. Mais pour en venir à ce que je disais, on peut changer complètement de paradigme et se dire, plutôt que de contenter de monitorer les sujets qui sont mes sujets habituels, est-ce que je peux pas essayer de me donner les moyens de découvrir des éléments propres à mon marché auxquels je ne m'attends pas? Bon, ce qui est d'autant plus pertinent qu'on est dans une économie qui est globalisée pour la plupart des secteurs, où le concurrent de demain n'est pas du tout celui qu'on avait hier, où on voit bien dès que il y a des évolutions technologiques que les cartes se rabattent très très vite. Donc c'est pas simple à un moment donné d'imaginer ce genre de choses. Alors l'intérêt là de ces nouvelles approches, et c'était le sens du papier que j'ai écrit autour du produit Intelligence Today, c'est d'avoir repensé complètement l'approche veille, d'avoir un peu d'avoir, disons, ouvert une deuxième alternative. Hein. Est-ce que je peux pas avoir des outils de découverte, de fouille, qui vont être très efficaces et puis à un moment donné me permettre de rencontre l'exemple que je donnais, que les Chinois équipent d'exosquelettes l'armée, enfin les gardes frontières avec le Tibet. Et quand on réfléchit un instant, ben, c'est une information qui est très importante parce que ben, ils commencent par le militaire, ils vont créer de la technologie, un savoir-faire industriel qu'ils vont évidemment envoyer dans le monde civil pour ensuite le mettre sur le marché mondial. Donc c'était un exemple que je donnais. En même temps, quand vous êtes dans les industries ferroviaires et que à un moment donné vous découvrez que l'Inde décide de passer un appel d'offres auprès de constructeurs de BTP pour augmenter la taille de ses quais dans les gares, eh ben ça invite à la réflexion. Pourquoi? Parce que s'ils augmentent la taille des quais, c'est que les trains vont aussi augmenter. Enfin, qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. Bon, et donc il y a des choses à aller chercher quand on travaille dans l'industrie du ferroviaire. Bon, donc cette dimension découverte, elle devient à mon avis primordiale, hein, pour justement.
Ça, cette dimension-là, c'est ce qu'on appelle le market intelligence, hein, c'est ça?
Pour moi, la market intelligence, c'est les deux, c'est-à-dire que c'est le côté, enfin pour moi, c'est pas simplement pour moi, c'est ce que je constate, il y a à la fois le côté monitoring et à la fois le côté découverte.
Hein. D'accord.
Ça sert à rien d'opposer les deux. Hein.
D'accord, il s'appuie sur
simplement. Simplement, la veille n'est pas suffisante, hein, parce que le concurrent d'hier ou d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement celui de demain et réciproquement. Bon.
Et alors, on parle aussi de predictive analysis. Ça veut dire quoi, ça? C'est encore
Les Américains, en fait, ont toujours eu un peu cette dimension, c'est-à-dire que le côté monitoring, ils l'ont fait, mais j'ai envie de dire bien avant nous. C'est comme ça que se sont développés des outils comme Factiva, Reuters, Bloomberg et autres qui ont apporté ce genre d'informations. Bon, qui marchent plutôt bien. Hein, j'ai envie de savoir ce qui se dit sur tel et tel marché, telle ou telle société. La promesse est généralement tenue. Par contre, ils se sont très vite intéressés à cette dimension prévisionnel. Alors, je déteste traduire predictive analysis en analyse prédictive parce que on n'est pas des prédicateurs. Mais je parle plutôt de prévisionnel dans le sens où on va chercher à mettre en évidence des évolutions, des tendances, à faire des prévisions. Comme le météorologue fait des prévisions avec ses outils, avec ses modèles, avec ses algorithmes, avec aussi les limites de l'exercice que tout le monde connaît. Mais on est dans cette dimension-là. Et donc, les Américains investissent beaucoup plus là-dessus.
Ouais. Je crois comprendre finalement de ce que tu me racontes, de cette évolution du marché de la veille vers quelque chose d'un peu plus prévisionnel, pour ne pas dire prédictif. Oui. C'est que finalement, on se tourne plutôt vers la détection d'événements futurs et imprévisibles. Enfin, à l'origine, imprévisible.
D'événements futurs qui peuvent impacter significativement les affaires. Je donnais des exemples, la réorganisation d'un marché, le fait qu'il y a probablement des opportunités d'affaires parce qu'il y a eu telle et telle décision qui ont été prises, ce genre de choses, quoi. Bon, on va être dans cette dimension-là. Mais un autre parallèle que j'aime bien faire, c'est dans la finance. D'un côté, il y a la comptabilité, exactement un état des lieux à un instant T, c'est une forme de veille d'un certain point de vue, hein. Qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a gagné, où sont les différentes dépenses, et puis ensuite, il y a le côté plus prévisionnel qui est lié à la business intelligence. Alors, c'est qu'il faut que j'investisse.
Dernière question, peut-être pour clore cet entretien, et qui nous donne une meilleure idée de la façon dont ce marché-là a évolué. Par rapport à ces acteurs, aux acteurs de ce marché et à la taille de ce marché, finalement, ça fait le marché de la veille, notamment sur le web. Enfin, moi, je m'y intéresse surtout depuis qu'il y a le web, à vrai dire, même si c'est bien plus ancien. Donc, ça date, je dirais, à peu près 2005-2006, où on a commencé travailler vers les analyses de tonalité, et j'en passe des meilleurs. Finalement, ce dont je m'aperçois, c'est qu'en 2021, au nombre d'études de marché que je tourne en ce moment, c'est incroyable, énormément d'études de marché. Les entreprises ont vraiment besoin d'aller proche des clients, d'aller leur poser des questions. Finalement, on nous disait à l'époque, les études de marché, c'est foutu, c'est fini, ça sert à rien, vous allez voir, ça va disparaître. On va avoir des outils qui vont naviguer sur Internet et qui vont puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé.
Non, c'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que l'étude de marché, c'est justement une étude et qu'il y a une dimension analytique. Après, qu'on la fasse de telle et telle façon, c'est une question de moyens et j'ai envie de dire d'outils. Bon, mais c'est pas demain la veille que les études de marché vont disparaître. La manière de les conduire, ça, c'est un autre débat. Bon, je pense que il y a deux éléments qui ont amené une vraie rupture technologique. Le premier élément, c'est l'immensité des données disponibles sur le web. On vit dedans, on s'en rend pas bien compte, mais regardez, il y a 10 ans, c'est juste le départ de Facebook. Aujourd'hui, il y a combien de milliards là, de gens qui sont connectés? Donc en 10 ans, il y a une explosion du nombre de données disponibles et ça va pas en s'arrêtant. Ça, c'est la nouvelle donne. Hein. On a une masse de données. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, et dans d'autres domaines du traitement de données, le premier problème à résoudre, c'était d'avoir de la donnée. C'était le premier problème à résoudre. Bon, c'est plus vraiment le nôtre aujourd'hui. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que il est de bon ton là, de critiquer Google, Facebook, tous ces grands acteurs américains. Force est de constater qu'ils ont développé des algorithmiques extraordinaires. Ils indexent non pas des millions de pages, mais des milliards de pages. Et de manière quasi instantanée. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que toute cette algorithmique qui est publiée d'une façon ou d'une autre, elle peut être utilisée. Et d'ailleurs, le produit Intelligence Today s'est très largement inspiré de ce qu'avaient fait ces gens-là pour pouvoir travailler non plus sur des corpus de millions de documents, qui est l'unité de mesure d'un système de veille traditionnel, mais des corpus beaucoup plus élevés. Et donc, avec une très grande souplesse et une très belle ergonomie d'utilisation. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on hérite de ce que ces grandes sociétés ont créé pour le web, pour pouvoir en faire des outils plus professionnels. Leur algorithmique est extrêmement puissante.
Mais c'est une bonne remarque. Bon, alors, au passage, pour pas toujours parler de Google, on citera par exemple DuckDuckGo, qui est le moteur de recherche que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant, et qui est largement aussi bon, sinon meilleur que Google. Donc il n'y a pas que Google qui sache faire.
Oui, tout à fait. Le sujet. Oui.
Avec moi, ce que je remarque, c'est que oui, beaucoup de données est disponible. Quand je regarde les devoirs de mes étudiants, je ne les trouve pas beaucoup plus documentés en données que ce qu'ils étaient il y a 20 ans ou 30 ans, voire même l'inverse. C'est-à-dire que plus la donnée est disponible et plus ça paraît évident qu'on peut aller la chercher, mais c'est pas forcé qu'on y aille. Et ensuite, ce dont je m'aperçois, c'est que aussi, au travers de ces outils, je reprends toujours mon DuckDuckGo parce que je l'aime bien, avec deux petites mains, un cerveau, des yeux et surtout la capacité de croiser de l'information, on apprend beaucoup de choses, plus aussi l'accès au deep web sur des sites qui, eux, regorgent d'informations et de données qu'il faut croiser également et vérifier, patati patata, des sites comme Statista ou des sites comme celui de l'INSEE ou des sites comme l'Eurostat, etc. Quand j'étais petit, il fallait aller dans un bâtiment. Ça paraît complètement gothique aujourd'hui, n'empêche que finalement, les études de marché qu'on voit telles qu'elles sont faites habituellement, on voit aussi dans le domaine des informations, ce que je vois dans la presse, encore, ça va encore, mais sur Internet, des informations du style de plus en plus, les gens utilisent de plus en plus leur mobile, voilà, par exemple, alors que tous les chiffres sont disponibles ou presque. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un échec, justement? Oui, la donnée est disponible, mais est-ce qu'elle n'est pas utilisée? Et finalement, est-ce qu'on a besoin de tous ces outils pour aller masser encore plus de données alors qu'on les a déjà?
Alors, je crois que le problème, il n'est pas tellement de masser des données, mais c'est au contraire de les exploiter intelligemment. Et tu as eu parfaitement raison de dire que, certes, il y a un écran, certes, il y a des yeux, mais s'il n'y a pas un cerveau derrière tout ça, ça fait rien. Bon, mais strictement rien. Et j'enseigne sur ces questions de Marsec à Intelligence et je répète, mais je ne sais pas, au moins une centaine de fois dans la dizaine d'heures de cours que je donne par classe, que la clé du succès, elle est certes dans les outils d'analyse, mais dans l'interprétation, le sens que l'analyste va donner. C'est la combinaison des deux. Aujourd'hui, tes exemples que tu donnes, je fais le même constat, moi je suis assez effaré par... Je sais que ça fait un peu vieux papy qui raconte ses vieilles histoires, mais faut quand même reconnaître que des fois, on se dit, mais avec toutes les données qu'ils ont, comment ils arrivent à faire des trucs aussi pauvres? Ouais. Alors que avant, on s'embêtait à aller chercher de la donnée en bibliothèque, et quand on avait trouvé 10 infos, on était super content parce que c'était déjà bien, quoi. Il avait fallu les chercher. Oui, je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, je sais pas si c'est le terme de discipline, parce qu'il a un côté arbitraire, j'aime pas beaucoup. Mais il y a une éducation à avoir par rapport à cette masse d'informations qui circulent. Bon. Le sens, c'est nous qui le donnons, rien d'autre. Bon. L'outil, il est là pour faciliter, point à la ligne. Bon.
Absolument. En conclusion, donc, comment vois-tu évoluer ce marché? Est-ce qu'on va retrouver l'usage du cerveau?
Ah oui, ça, je pense que ceux qui l'opéreront n'iront jamais très loin. Peut-être que je suis... un optimiste né, mais j'ai jamais cru à la République des imbéciles.
Sur ces paroles optimistes, merci Alain et à bientôt.
Pour conclure, je dois avouer que ma curiosité a été piquée et que j'aimerais bien challenger mon ami et confrère sur un sujet qui pourrait intéresser nos lecteurs. J'espère qu'il relèvera ce gant et que nous pourrons bientôt démontrer à nos lectorats que, comme il nous l'a promis, la Market Intelligence est bien plus que la veille. Dans cette attente, il vous faudra vous contenter de quelques cas clients. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.